Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Seigneur, nous avons vu la dernière fois que nous sommes associés à cette victoire. Depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je te prie, Père, au nom de Jésus, que tu nous remplisses ton Saint-Esprit. Je te prie que tous nos soucis, toutes nos pensées négatives, tout ce qui a été lourd pour nous cette semaine, soit balayé pour que nous puissions écouter ta parole. Nous voulons être un peuple de vainqueurs et nous avons besoin de ta parole pour nous y aider. Merci que tu es là au milieu de nous par ton esprit. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous retrouvons ce texte de l'Apocalypse, cette grande fête finale, chapitre 12, donc, de l'Apocalypse, et nous allons relire exactement le même texte qui a été lu la dernière fois. C'est pour cela que nous arrêtons à partir du verset 10. Il doit apparaître devant vos yeux maintenant. Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instaure son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel et vous qui habitait la terre. Et vous, pardon, qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est la suite de la dernière fois. Nous allons exposer certaines choses sous un angle différent. Tout d'abord, nous nous rappelons que nous sommes vraiment une équipe de... Vous en êtes sûr? On l'a chanté dans les chants aussi qui nous ont été proposés tout à l'heure. Et ici, il est question des réjouissances des croyants dans le ciel. Et cette réjouissance, elle touche le cosmos, le ciel, tout. À cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Nous n'insistons jamais assez de l'œuvre victorieuse de Jésus sur la croix. Et vous savez pourquoi on n'insiste pas assez? Parce que le diable ne veut pas qu'on parle de ça. La victoire est totale. Et nous avions dû d'aller la dernière fois, si nous sommes du côté des vainqueurs, c'est qu'un jour nous sommes passés du camp des perdants à celui des vainqueurs. En Jésus-Christ. Jésus est notre champion. Et quoi qu'il arrive, dans notre vie qui n'est pas facile tous les jours, il reste notre champion. Et nous sommes associés à sa victoire. Il est le seul qui pouvait vaincre l'accusateur. Il l'a fait, l'ennemi de nos âmes. Il est le seul qui pouvait nous soustraire des accusations qu'il porte contre son Église, jour et nuit. Il ne dort jamais, l'accusateur. Moi, j'ai besoin de dormir. Mais lui, non. Il travaille jour et nuit. Et grâce à la victoire de Jésus-Christ, les croyants, on va le voir tout à l'heure, et le texte nous l'indique, disposent de deux moyens pour vaincre l'accusateur. Et il y a un texte que j'avais oublié de lire la dernière fois, et on va le lire maintenant. C'est l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. L'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, c'est pour bien montrer la victoire, pour bien montrer que c'est la croix, pour bien montrer qu'il y a un lien direct entre l'œuvre de la croix et la défaite de l'accusateur. Qu'est-ce que nous dit Paul ? Il s'adresse à l'église de Colosse et voilà ce qu'il nous dit donc dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. Écoutez bien. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire où ? Sa victoire où ? À la croix. C'est un texte très, très fort, très important, que nous devons apprendre par cœur. Là, il nous est dit que Jésus, à la croix, a désarmé toute autorité et tout pouvoir. C'est quoi cette autorité ? C'est quoi ce pouvoir ? C'est vraiment les agents secrets, en quelque sorte, du diable. Ils sont désarmés. Et Paul, qui était un homme de culture, quand il parle de cette manière-là, il se souvient de quelle façon, devant l'empereur à Rome, il y avait un défilé triomphal où les chefs militaires vaincus avaient perdu leurs habits militaires. Ils avaient perdu leurs armes. Ils étaient dépouillés. Ils étaient désarmés. Ils étaient obligés de se traîner derrière le général vainqueur, désarmé. Ils ne pouvaient plus rien faire. Et c'était un spectacle triomphal pour les vainqueurs. C'est ça que Paul nous dit. Et il fait le parallèle avec le Christ. C'est un spectacle triomphal. Celui dont nous avons lu l'ampleur dans ce texte de l'Apocalypse tout à l'heure. Le Messie a l'autorité. Ça vous plaît ? C'est une réalité spirituelle que les chrétiens, que les disciples de Jésus-Christ doivent saisir. Maintenant, j'aborde un aspect que je n'ai pas abordé la dernière fois. Revenons, si vous voulez bien, à notre texte de l'Apocalypse. Que nous est-il dit ? Il nous est dit que ces chrétiens qui sont sauvés, qui sont des myriades, des milliers dans le ciel, ceux qui ont changé de camp, ils sont des vainqueurs. Et il nous est dit qu'ils l'ont vaincu, comment ? À cause du sang de l'agneau. Mais qu'est-ce que c'est que ce sang de l'agneau ? Et c'est ce point-là que j'aimerais développer. Dans la Bible, comme vous le savez, le sang représente la vie. Pour que l'offense soit lavée, pardonnée, il faut que du sang coule. Il faut que quelqu'un donne sa vie. Et dans l'Ancien Testament, c'était des animaux qui étaient égorgés et on prélevait le sang. L'animal versait son sang pour que celui qui avait offensé, qui avait péché contre Dieu, n'est pas à verser le sien. Le sang est donc le seul moyen pour obtenir le pardon de Dieu. Il a un rôle purificateur. D'ailleurs, l'auteur de l'Hébreu, de l'Épître aux Hébreux le dit bien, au chapitre 9, verset 22, « En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. » Et il ajoute, « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. » Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Et l'apôtre Jean dira la même chose par rapport aux chrétiens que nous sommes, dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 7, « Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » C'est Jésus qui a versé son sang sur la croix. Il a accompli la purification de tous nos péchés. Et si nous avons tous placer notre confiance dans l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, eh bien nous sommes purifiés, pardonnés, réconciliés, graciés. Toutes les représentations théologiques de la croix sont là. Il y en a beaucoup. Et ce matin, je m'arrête sur une seule présentation théologique de la croix, au moins deux en tout cas. D'abord, la première, il faut que nous prenions conscience que nous sommes purifiés, que nous sommes justifiés par le sang de Christ. Là, j'insiste plutôt sur ce terme. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que étant pécheurs, nous sommes incapables d'observer la loi divine. C'est trop dur pour nous. A accompli cette justice, Jésus-Christ qui a parfaitement accompli la loi divine. Regardez-le vivre dans les évangiles. Regardez-le mourir sur la croix, accomplir la justice de Dieu pour nos péchés. Il a accompli dans sa vie et dans sa mort, d'accord, cette justice-là. À cause de cela, Dieu, et c'est là vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile, mais la justice de Christ à notre crédit. Nous sommes justifiés par son sang. La pureté, la justice, la beauté de Christ est transférée sur nous. C'est notre justice aussi, si nous avons mis totalement notre confiance dans le Christ. Justifiés par son sang. Vous aimez les cadeaux? Oh, qu'est-ce que les petits-enfants, ils aiment les cadeaux. Des fois, notre petite fille, elle nous réclame souvent un cadeau. Eh bien, ce cadeau-là, c'est le plus étonnant, le plus extraordinaire. Plongeons vraiment notre cœur dans la foi de ce cadeau-là, justifié par le sang de Christ. Et voilà que nous avons l'occasion de lire un autre texte maintenant pour argumenter cela. Regardez un peu dans l'Épître aux Romains. Ça va apparaître au chapitre 5 et au verset 9. Ça y est. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous. Mais j'aime mieux encore la version ancienne, soit la colombe ou bien la seconde. Elle nous dit ceci. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par son sang, serons-nous sauvés de par lui de la colère, par le sang de Jésus-Christ. J'aime la version seconde. Justifié par son sang. Thomas disait par son sacrifice. Mais son sacrifice, c'est le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Or, pour revenir à notre texte, il nous est dit que tous ces chrétiens, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire pour nous? Eh bien, vous le savez, et nous l'expérimentons malheureusement, Dieu qui a donné son Fils pour que nous soyons justifiés par son sang, il a un adversaire redoutable, un accusateur. Et cet accusateur veut toujours nous faire douter de cet héritage. Toujours, il veut remettre ça en question. Il veut nous faire sortir continuellement de cette position de foi. Et on va le trouver, ce que je viens de dire, dans un épisode de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie. Un texte étonnant, et que nous allons lire en partie maintenant au chapitre 3, 1 et suivant. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et on retrouve, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ? Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna « Ôtez-lui ses vêtements sales !» Et il s'adressa à l'adresse de Josué. Il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Une drôle de scène. Josué était un souverain sacrificateur qui a exercé au retour de l'exil. C'était le grand prêtre de la colonie juive qui est retourné dans le pays d'Israël. Et il y a ici un dialogue étonnant, surréaliste, avec de nouveau l'accusateur, qui fait le même travail. Qu'est-ce qui fait l'accusateur ? Il met toujours le doigt sur ce qui n'y va pas dans nos vies. Mais Josué, qui a des vêtements sales, c'est la salissure de ses péchés, eh bien, va être revêtu d'un vêtement éclatant. Eh bien, nous sommes, nous aussi, quelquefois dans la même position que Josué. Ne sommes-nous pas des sacrificateurs comme chrétiens ? Ne sommes-nous pas des prêtres qui louent l'Éternel ? Et plus nous voulons être des prêtres qui louent, qui adorent, qui servent l'Éternel, plus l'accusateur va pointer son doigt sur nous. Comment faire quand ça arrive ? Comment faire quand ça arrive ? C'est là que nous nous rappelons que justice a été faite, que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et c'est là que nous pouvons dire, même, pour dire à l'accusateur, oui, tu m'accuses, mais le sang de Jésus me justifie, me protège. Et ça, j'y viendrai plus tout à l'heure. C'est vrai, je reconnais que j'ai des vêtements sales tous les jours. Dans ma relation, peut-être avec mon conjoint, des fois, j'ai des vêtements sales. Hein ? Il y a le péché. Pas notre manière de louvoyer, toujours. Et il appuie là-dessus, vous l'avez remarqué ? Ah, il appuie. Ça fait tant d'années que tu es chrétien, puis tu es encore comme ça. Il appuie, c'est l'accusateur. Et il le fait même la nuit, quand nous ne trouvons pas le sommeil des fois. Eh bien, nous pouvons répondre à l'accusateur. Jésus, par son sang sur la croix, m'a justifié de tout péché. Justice a été faite. Et c'est ainsi que nous pouvons expérimenter cette parole de l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par le l'agneau. Justice a été faite. Je le répète. Car le sang du Christ a coulé sur la croix. Est-ce que vous avez une robe nouvelle, tous les uns les autres ? Il peut très bien y avoir dans un auditoire comme celui-ci de beaux petits chrétiens évangéliques, mais qui n'ont pas encore revêtu la robe nouvelle. S'il vous plaît, confessez vos péchés, changez de vie, repentez-vous, et merci pour la justice de Christ. Robe nouvelle. C'est ce que Josué a été revêtu. Et l'accusateur a été réduit au silence, comme le dit si bien notre texte. Parce que c'était ordonné par l'ange. Devant l'ennemi de nos âmes, prenons position de ce qui appartient, de tout ce que nous avons en Christ. Résistons à l'accusateur. D'ailleurs, c'est Jacques qui nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est concret, c'est pratique. Faisons-le. Deuxième représentation théologique que j'aimerais développer devant vous, par rapport à cette question du sang. Le sang de Jésus-Christ, là je vais utiliser un mot qu'on n'utilise pas souvent, c'est vraiment l'appropriation, propitiation de Dieu. Propitiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose simple qui rejoint d'ailleurs un tout petit peu le point précédent, par rapport à cette justice du Christ qui nous a été donnée gratuitement, c'est que Dieu nous a offert son Fils comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ça, c'est la version du Sommeur. Je ne sais pas si Nathalie t'a trouvé la seconde 1910, parce que c'est exprimé un petit peu différemment. Je le lis. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. C'est une représentation théologique de la croix qui est très importante, qu'il nous faut assimiler. Par rapport à ce combat, parce qu'on parle toujours de combat contre l'accusateur. Le mot qui est utilisé, propitiatoire, correspond au mot hébreu kaporet, et le kaporet c'était un couvercle qui couvrait, c'est le cas de le dire, l'arche dans le lieu très saint. À l'intérieur de cette arche, il y avait différentes choses, et que faisait le grand prêtre ou le sacrificateur souverain chaque année? Qu'est-ce qu'il faisait? Il entrait dans le lieu saint. Il avait au préalable pris le sang qui a coulé, le sang d'animal, et il aspergeait le couvercle de sang. C'est pour ça que c'est un mot technique très important. Et quand il avait fait cette tâche, il pouvait ressortir vers le peuple. Il était toujours vivant. Et le peuple pouvait dire, ça y est, Dieu nous est encore propice, propitiatoire. Vous vous rendez compte de l'ambiance psychologique pour ça? Ou, autrement dit, favorable, propice. Tout de suite, nous pouvons faire le parallèle avec l'œuvre de Jésus sur la croix. Il a fait réellement une œuvre propitiatoire ou expiatoire. Dieu, quand nous avons reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, notre chef, notre champion, eh bien, Dieu n'est plus fâché contre nous. Il n'est plus en colère contre nous. Avez-vous besoin d'un Dieu en colère ou d'un Dieu comme un ami? À cause du sacrifice propitiatoire. J'insiste beaucoup là-dessus. Il est la victime propitiatoire. Que se passe-t-il? Exactement comme dans l'Ancien Testament, quand le sang avait été pour recouvrir le couvercle, Dieu ne voyait que le sang. Il ne voyait plus le péché des peuples, du peuple. De la même manière, si nous donnons notre vie à Jésus, s'il est le premier s'il reste notre sauveur, eh bien, Dieu ne voit plus nos péchés. Nous sommes vus avec un œil propice, favorable, à cause du sang de Jésus. Vous saviez ça? Mais mettons-le en pratique, cette vérité spirituelle, fondamentale, toute simple. On apprend même ça à l'école du dimanche. Alléluia. Avant que je me convertisse, Dieu me voyait comme un ennemi à cause de mon péché. Il était en colère. Mais quand j'ai donné ma vie au Christ, et vous aussi, j'espère, tous, Dieu est mon ami en Jésus-Christ. Il n'est plus en colère parce qu'il voit le sang. Et il passe sur le péché. Exactement le sens de la fête pascale, célébrée dans toutes les familles israélites. Que s'était-il passé ? Au cours de la dernière plaie, Dieu avait demandé simplement que le chef de famille mette sur les poteaux et les linteaux des portes familles israélites du sang. Et le texte du livre de l'Exode nous dit ceci, « Je verrai le sang, c'est Dieu qui parle, je passerai par... » Et aucun des premiers-nés parmi les familles israélites n'était mis à mort à cause du sang. Qu'est-ce que veut faire toujours l'ennemi de nos âmes? Qu'est-ce qu'il veut faire? Soyons-en conscients, il le fait continuellement. Il veut nous découvrir, nous mettre à nu avec notre péché, tandis que l'œuvre du Christ est de nous couvrir par le sang. Alléluia. Et nous pouvons dire au diable, passez, il n'y a rien à voir. Rien. Je suis justifié. Je suis regardé avec un œil propice, favorable. C'est très important. Lorsque l'ennemi part notre conscience, parce qu'il ne parle pas notre conscience, il y a des choses des fois qui ne sont pas claires, mais il y a aussi des choses qu'on ne veut pas mettre en règle. Mais quand nous les mettons en règle, l'ennemi n'a plus rien à dire. Son sang nous couvre. Le sang de Jésus, bien sûr. Ce qui veut dire que le sang de Jésus est notre protection sur nos vies, sur nos cœurs. Jésus fait référence à son œuvre purificatrice et propitiatoire accomplie. Mais cette fois-ci, attention, une fois pour toutes, tandis que dans le temps, il devait y aller chaque année pour ça. Une fois pour toutes. Frères et sœurs, je vous en supplie, grandissez dans la foi et ne mésestimez pas cet héritage. Il est à nous. Il nous appartient. L'importance de l'efficacité du sang de Jésus dans ce combat contre le diable. Soulignons-la. Mise en pratique. Je ne vais pas être trop long. Croyons que le sang de Jésus est efficace pour nous protéger. Proclamons-le. Proclamons-le. Parce que nous sommes agressés de bien des façons. Des fois, dans des couples, on se met à, excusez-moi, se gronder, parce que je veux utiliser un mot qui est à peu près correct. Ça nous tombe dessus, pourtant on s'aime. Vous avez vu ça? Vous avez expérimenté? Il y a quelque part des démons qui traînent par là et qui veulent mettre la pagaille dans le couple. Proclamons la victoire de Jésus et de son sang. Quelquefois aussi, il nous arrive d'avoir des pressions qui ne sont pas normales, des pressions spirituelles. Ça vous est arrivé? Des trucs bizarres? Bien, proclamons l'efficacité du sang de Jésus. d'un seul coup, il nous arrive sans raison d'engueuler nos enfants. Pourquoi ? C'est pas normal. De les irriter. Là encore, l'ennemi peut être derrière. Et demandons pardon aux enfants. À nos enfants. Etc., etc., etc. L'accusateur veut toujours travailler. Mais le message de victoire aujourd'hui, c'est que vraiment cette Église rassemblée dans le ciel a expérimenté, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Plaçons-nous sous la protection du précieux sang de Jésus. C'est la deuxième chose que je voudrais dire. Pour nous, pour nos proches, parce que tous les jours, le diable a besoin qu'on lui rappelle l'œuvre de la croix. Tu vois la croix à Golgotha, tu as été vaincu. Le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Lorsque nous nous plaçons sous la protection du sang de Jésus, je vais vous dire une chose étonnante, c'est comme si nous tirions une espèce de couverture spirituelle, une couverture. Et l'ennemi n'a plus qu'une chose à faire, c'est de nous laisser tranquilles. Cette forme d'appel à la croix, à l'œuvre de Jésus, à cet héritage au travers de son sang qui a coulé, le sang précieux qui a été versé, nous montre que c'est là son sang, c'est la croix qui parle, c'est la croix qui témoigne pour nous. C'est un appel au Christ mort et ressuscité. C'est une proclamation du vainqueur que nous sommes devenus. Alléluia. J'aime beaucoup ce petit chant que nous chantions dans le passé. Je suis fort. Fort. Oui, à moitié vainqueur. C'est ça? Bon. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Apprenons-le. Vivons-le. Mais ce sont des choses toutes simples que j'essayais de rappeler ce matin. Il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr, point de vue spirituel. Mais mettons-les concrètement et simplement en pratique dans le sens que nous nous rappelons cet héritage en Christ. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Vous avez tous entendu parler de Martin Luther. Un jour, Martin Luther était très malade. Très malade, avec beaucoup de température, beaucoup de fièvre. Et dans une nuit de fièvre, il nous dit qu'il crut voir Satan en personne entrer dans sa chambre et s'asseoir au bord de son lit. Et le diable était muni d'un rouleau d'une longueur incroyable, sur lequel étaient inscrits tous les péchés de Luther. Les péchés de jeunesse, les péchés d'âge mûr. Et Luther était accablé. Alors que son cœur allait défaillir, soudain, il s'écrie avec force à l'ennemi, à l'accusateur, « Ce que tu dis est vrai, c'est trop vrai. Mais je proclame une chose, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. À l'instant même, cet être lugubre sortit de la chambre de Luther. » Nous sommes forts, mes amis, par le sang de Jésus. Plus que vainqueur. Même dans une tristesse circonstancielle difficile, même quand nous avons mal, j'ai mal à ma bouche, c'est comme si j'ai le feu dans ma bouche. Il faut que nous restions forts. Et je préfère avoir le feu dans mon cœur que dans ma bouche. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Oh, que notre Église saisisse, n'a pas besoin d'être triste. Nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Soyons aussi des proclamateurs de l'héritage que nous avons. Souvent, nous sommes des petits demandeurs, donne-nous la santé, patati patala. Non, il y a une autre manière de proclamer la victoire, par la foi. Il faut que ça change. Nous louons, adorons le Seigneur pour ce qu'il est, pour sa position, pour ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, que jamais le diable ne pourra détruire. Proclamons cela tout le temps dans nos vies. C'est ça que je veux dire. Les vainqueurs, c'est ceux qui vraiment ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Je ne peux pas vous dire plus, j'en ai terminé. Et nous aimerions tellement que le Saint-Esprit grave cela dans nos cœurs. Bien sûr, proclamer ça, ça implique toujours que notre conscience soit nettoyée de tout péché et de réclamer que le sang de Jésus couvre tout cela. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'était pas vraiment entré dans le royaume de Dieu, vous savez, des fois, dans les églises, on voit des gens qui restent au bord du royaume de Dieu. Oh, ils sont gentils, oh, ils sont sympas, et le passage n'a pas été fait. Oh, je l'invite de passer du camp des vaincus au camp des... J'ai le droit de dire cela? Est-ce que je n'ai pas le droit de le dire? C'est sérieux. C'est très sérieux. Est-ce que nous pourrions chanter? Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être trop difficile, mais en tout cas, nous aurions pu chanter que nous sommes forts, forts, par le sang de Jésus. Mon Sauveur, nous allons prier. S'il y avait des personnes parmi nous qui auraient besoin de prière parce qu'ils sont attaqués quelque part, l'Église aussi joue son rôle pour aider ces personnes à proclamer la victoire. Et nous pouvons prier. Je vous invite à vous lever parce que des vainqueurs, ça ne peut pas rester assis. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas prier longtemps, mais on va le faire. Tu es bon, Seigneur Jésus, et non seulement tu es bon, mais tu as eu pitié de nous. Tu as été obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la croix de Golgotha. Dans le jardin de Gethsémané, tu as été tenté de ne pas boire cette coupe affreuse de nos péchés. Mais tu as dit, ô Dieu, je viens. Père, je viens pour faire ta volonté. Tu as été jusqu'au bout. Et heureusement que tu as été jusqu'au bout. Tu as été crucifié. Tu as été humilié. Tu as été dans l'enfer le plus total. Mais tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu es vainqueur. Nous t'adorons. Je te prie d'aider, de nous aider les uns les autres à vivre concrètement dans notre vie spirituelle ces vérités qui font partie de l'héritage que nous avons en Christ. Bénis nos jeunes, bénis nos enfants, bénis nos familles, bénis ceux qui souffrent dans notre Église. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, le vainqueur. Amen.